Dans le chapitre 10 de Jean, où Jésus se présente comme le bon berger, il déclare solennellement ne faire qu'un avec le Père. On ne peut rester indifférent devant une telle affirmation. Bien entendu, cela suscite plus que des remous dans la ville, puisque les Juifs veulent l'assassiner. Alors, et selon sa coutume, Jésus leur adresse une parole plutôt énigmatique, dans laquelle il dit « Votre loi appelle Dieu ceux auxquels s'adresse la parole de Dieu ». Il condescend à vouloir raisonner avec cette bande d'hypocrites qui cherchent à le supprimer. Il leur explique donc que puisque les Écritures appellent des hommes ordinaires Dieu à cause de leur fonction temporelle de juge en Israël, alors même qu'ils bafouaient la justice, à plus forte raison, Jésus, qui a été consacré par le Père et envoyé dans le monde par lui, a le droit de s'appeler le Fils de Dieu. Ceci dit, il est intéressant de noter au passage qu'en plein milieu de son argumentation, Jésus a également dit « On ne saurait discuter le témoignage de l'Écriture », ce qui est particulièrement important. En effet, cette affirmation souligne que le Seigneur croyait en l'infaillibilité des Écritures, qu'elles étaient la vérité telle qu'elle. Je continue le texte du chapitre 10. « Si je n'accomplis pas les œuvres de mon Père, vous n'avez pas besoin de croire en moi. Mais si au contraire je les accomplis, même si vous ne voulez pas me croire, laissez-vous au moins convaincre par mes œuvres pour que vous reconnaissiez et que vous compreniez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Versets 37 et 38. Alors que ses ennemis ont des pierres dans les mains, Jésus continue stoïquement à dialoguer avec eux, essayant de les amener à leur bon sens, à croire à cause de ses prodiges, ce qui pourrait être un point de départ pour la foi. Les signes miraculeux avaient une valeur pédagogique. Leur but était de faire réfléchir ses auditeurs à leur implication. Nicodème, le pharisien qui était venu voir Jésus de nuit, l'avait bien reconnu puisqu'il avait dit, et je le cite, « Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. » Fin de citation. Mais dans la situation présente, Jésus accompagne cette suggestion de croire de l'affirmation « Le Père est en moi et je suis dans le Père », ce qui jette de l'huile sur le feu. Le Seigneur rajoute cette vérité parce qu'il est indispensable de l'accepter pour parvenir à la foi qui sauve, celle qui conduit à la vie éternelle. Mais tenter de raisonner ainsi ses auditeurs ne fait qu'intensifier leur colère. Jésus est sans aucun doute profondément attristés par la dureté de leur cœur et leur parti pris contre lui, même s'il sait que, selon les prophéties à son sujet, il doit en être ainsi. Il est également affligé parce que ces gens qui veulent le tuer, et toute la nation d'Israël avec eux, encourent le jugement de Dieu. La destruction et l'exil ici-bas et la condamnation éternelle dans l'au-delà. Je continue. Là-dessus, les chefs des Juifs tentèrent à nouveau de se saisir de lui, mais il leur échappa. Après cela, Jésus se retira de l'autre côté du Jourdain, au lieu même où Jean avait précédemment baptisé. Il y resta quelque temps. Beaucoup de monde vint le trouver. On disait, « Jean n'a fait aucun signe miraculeux, mais tout ce qu'il a dit de cet homme était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Versets 39 à 42. Une nouvelle fois, les autorités juives veulent réduire le Seigneur au silence, mais ils s'échappent sans qu'aucune précision supplémentaire nous soit donnée. À cause de leur hostilité, il décida de quitter les environs de Jérusalem et de remonter dans le nord. Or, les gens de cette région lui firent un bon accueil. Ils avaient été préparés en leur âme et conscience par le ministère de Jean-Baptiste, qui avait prêché la repentance et qui, quoique mort, exerçait encore une influence sur eux. Ces gens simples crurent avant de voir le moindre prodige, tandis que la foule hostile de Jérusalem avait vu les signes miraculeux de Jésus et l'avait rejeté. Qu'en est-il de vous et de moi? Nous vivons tous dans un brouhaha invraisemblable composé d'une multitude d'avis, de bruits et de cris divers et contradictoires, qui tous réclament notre attention, prétendant m'indiquer le meilleur chemin. Si je suis une brebis du Seigneur, j'entendrai sa voix et je le suivrai. Le bon berger les guide en lieu sûr et leur donne la vie éternelle. Nous voici arrivés au chapitre 11 de cet évangile où nous est racontée la résurrection de Lazare. Ce passage fort connu est le plus utilisé dans les services religieux, même par des gens au demeurant pas trop croyants, lors des homélies en faveur de ceux qui viennent de nous quitter. Les événements de ce chapitre ont lieu entre décembre et avril, entre la fête de la reconsécration du temple, où Jésus a déclaré qu'il était le bon berger, et la célébration de la Pâque à venir, durant laquelle il deviendra effectivement l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jusqu'à présent, le Seigneur a manifesté sa gloire à un nombre toujours grandissant de personnes. Il est venu en tant que Logos, l'expression, la parole faite homme, qui était avec Dieu de toute éternité, qui était Dieu et qui est venu habiter parmi nous. En premier lieu, Jésus s'est révélé à quelques serviteurs et à ses disciples alors qu'ils assistaient aux noces de Cana, puis aux foules par le biais de son enseignement et de miracles. Enfin, il s'est présenté à toute la nation au moment de la fête des cabanes à Jérusalem. Mais Israël, par le biais des autorités religieuses, l'a repoussé. Les Juifs ont d'abord disqualifié ces miracles parce qu'il en faisait aussi le jour du sabbat. Pourtant, ces signes prouvaient bien qu'ils venaient du Père. Ensuite, ils ont réprouvé ses paroles, voulant le lapider parce qu'il affirmait que de toute éternité, il était celui qui est. Et finalement, ils l'ont rejeté complètement et encore voulu le tuer parce qu'il disait être un avec le Père. Dans ce climat d'hostilité, ce chapitre 11 constitue une sorte d'entracte. Le ministère public de Jésus est terminé et il exerce un enseignement quelque peu privé, préparant les disciples à prendre sa relève. Il va démontrer, sans équivoque possible, qu'il a tout pouvoir, même sur notre plus grand ennemi. Les grandes questions auxquelles toutes les religions essayent de répondre sont liées au mystère de la mort. La vie n'a de sens que si elle procure l'espérance et se poursuit au-delà de la tombe. La grande certitude chrétienne est la résurrection des morts et la vie éternelle. Les évangiles racontent l'histoire de trois personnes que Jésus ramena à la vie alors qu'elles étaient mortes. Une fillette de 12 ans, étendue sur son lit funéraire, un jeune homme dans son cercueil, alors qu'on le transportait au cimetière, et enfin Lazare, quelqu'un d'âge mûr, qui était déjà dans sa tombe depuis 4 jours et partiellement décomposé. En réalité, même si ces trois personnes expérimentèrent un retour à la vie physique, elles ne reçurent aucun des privilèges de la résurrection qui sont décrits par l'apôtre Paul dans une de ses lettres et que je cite. « Mais, demandera peut-être quelqu'un, comment les morts reviendront-ils à la vie? À quel corps reparaîtront-ils? Lorsque le corps est porté en terre, comme la graine que l'on sème, il est corruptible. Et il ressuscite incorruptible, semé infirme et faible, il ressuscite plein de force. Ce que l'on enterre, c'est un corps doué de la seule vie naturelle. Ce qui revit, c'est un corps spirituel. Aussi vrai qu'il existe un corps doté de la seule vie naturelle, il existe aussi un corps régi par l'esprit. Fin de citation. Les trois morts mentionnées par les évangiles recouvrèrent la vie terrestre dans une enveloppe charnelle tout comme la précédente, infirme et qui se dégrade inexorablement. Ces ressuscités ne reçurent pas un corps glorifié, indestructible et doté de caractéristiques spirituelles. Éventuellement, ils durent à nouveau affronter la maladie ou un désastre et la mort une seconde fois. Dans les trois cas, Jésus les a ramenés à la vie de la même façon, en les appelant et en leur parlant comme s'ils pouvaient l'entendre. Le Fils de Dieu, fait homme, appartenait à deux mondes à la fois. Sa voix portait ici-bas et dans l'au-delà. Les morts à qui il s'adressait entendirent et comprirent ses paroles beaucoup mieux que vous percevez les miennes. Et ils obéirent. Ils furent réassignés à leur corps précédent tel qu'il était avant que la maladie ne le détruise. Mais ce n'était qu'un sursis, pas la vraie résurrection. Maintenant, je commence à lire le chapitre 11 de Jean. Dans le village de Béthanie vivaient deux sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, les lui essuya avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Verset 1-2. L'apôtre Jean présume que ses lecteurs, ayant lu les autres évangiles, connaissaient ces deux femmes. Un peu plus loin dans l'évangile, Marie va oindre les pieds de Jésus. Je cite le passage. Marie prit alors un demi-litre de nard pur, un parfum très cher. Elle le répandit sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Fin de citation. C'est également elle qui, lors d'une précédente visite du Seigneur, s'était assise à son écoute alors que sa sœur Marthe s'occupait des préparations du repas et en était frustrée. La libération des femmes a consisté à se rendre à l'extérieur de leur maison pour exercer un emploi rémunéré et ainsi échapper aux soins domestiques. Pourtant, Madame au foyer, épouse et maman, est une patronne à part entière. Elle peut vous virer de la cuisine, vous empêcher de vous servir dans le frigo parce que c'est pas l'heure pour ça, et vous dire de quitter une pièce parce qu'elle va y passer l'aspirateur. Elle est responsable et PDG de toute la maisonnée. C'est son royaume et son château et elle en est la reine. L'ami Lazare n'apparaît que dans l'évangile de Jean. Il rappelle un figurant quelconque dans un film. Il n'a pas de responsabilité précise, sinon de ressusciter des morts. Ce qui n'est déjà pas si mal, me direz-vous. Bref, cette petite famille, constituée des deux sœurs et du frère, s'était liée d'amitié avec Jésus. Béthanie étant proche de Jérusalem, c'était chez eux qu'il recevait l'hospitalité lorsqu'il exerçait son ministère à Jérusalem. Je continue le texte. Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire « Seigneur, ton ami est malade !» Verset 3. Les sœurs informent Jésus que son ami Lazare est très malade, mais se gardent de lui demander d'accourir au plus vite à son chevet. Elles le souhaitaient sans doute, mais savaient aussi qu'il n'était aucunement un porteur de bagages, un garçon de course ou de café, mais le Seigneur qui décide ce qu'il convient de faire au bon moment. De plus, il est fort probable que Lazare était déjà mort à l'arrivée du messager. En ce temps-là, les communications se faisaient essentiellement à la vitesse de la marche à pied ou à dos d'âne. Alors la question surgit dans mon esprit, pourquoi Jésus, qui aimait cette petite famille et qui connaît toutes choses, a-t-il laissé la maladie jouer son rôle? Et pendant que j'y suis, pourquoi Dieu permet-il que les gens bien souffrent? Les textes sacrés enseignent que c'est là l'ordre des choses depuis que l'humanité a été maudite à cause de la désobéissance de nos premiers parents. Un petit passage de l'Ancien Testament que je cite le confirme. Tout est pareil pour tous. Un même sort atteint le juste et le méchant, celui qui est bon et vertueux et celui qui est méchant, celui qui offre des sacrifices et celui qui n'en offre pas. Celui qui est bon est traité comme celui qui fait le mal. Fin de citation. Je peux clamer que c'est pas juste, mais je ne pourrai rien changer. Je continue le texte. Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Verset 4. Le Seigneur ne savait pas tout et donc il n'était pas forcément au courant de l'état de santé de son ami Lazare. Par contre, parce que cette maladie allait servir à glorifier Dieu, il connaissait déjà la suite des événements qui le conduiraient à réaliser un miracle prodigieux. La puissance de l'Éternel allait être révélée publiquement, ainsi d'ailleurs que celle du Fils de Dieu, la résurrection et la vie. Je continue le texte. Or Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Versets 5 et 6. Jésus aimait Lazare, qu'il fût malade ou en bonne santé. Pareil pour les 2 sœurs, et pour moi, et pour vous. Dieu nous aime quoi que nous fassions. On ne peut pas l'en empêcher, plus qu'on ne saurait interdire au soleil de briller. Même lorsque les difficultés sans nombre, dont je suis moi-même responsable ou pas, s'accumulent au-dessus de ma tête et devant ma porte, Dieu m'aime et a de la compassion pour moi. Voilà d'ailleurs ce qu'écrit un prophète de l'Ancien Testament. Car voici ce que dit le Dieu très haut qui demeure éternellement, qui s'appelle le Saint. J'habite dans un lieu qui est très élevé et saint, mais je demeure aussi avec l'homme accablé, à l'esprit abattu, pour ranimer la vie de qui a l'esprit abattu et vivifier le cœur des hommes accablés. Fin de citation. Les épreuves ont pour but de m'humilier afin que je puisse bien communiquer avec le Seigneur. Elles me forcent à me mettre à genoux, me plaçant ainsi à son niveau, celui de quelqu'un qui a beaucoup souffert. Voici ce que dit un passage du Nouveau Testament à ce sujet. Dieu voulait conduire beaucoup de fils à participer à sa gloire. Il lui convenait pour cela d'élever à la perfection par ses souffrances celui qui devait leur ouvrir le chemin du salut. Fin de citation. Il s'agit bien sûr de Jésus-Christ. Jésus, le bon berger, est au fond de la vallée de l'ombre de la mort afin que lorsque j'y descends moi-même, je puisse l'y retrouver. Voici en effet ce qu'a écrit le roi David. Je le cite. « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. » Fin de citation. C'est là, au fond du trou, quand tout va mal, que j'apprends à faire confiance à Dieu. Nous avons tous, chacun à notre manière, la fâcheuse tendance à nous considérer comme le centre du monde. Or, le quartier général de l'univers se trouve au siège de la majesté divine et pas sur ma chaise. » Jésus n'était pas indifférent au chagrin de ses deux sœurs, Marthe et Marie, mais il connaissait la suite de cette maladie. Et de plus, il prenait ses décisions en fonction de l'emploi du temps que son Père avait fixé pour lui. Ses œuvres et ses déplacements étaient dictés par Dieu. Il continua donc son ministère pendant 2 jours, avant de finalement prendre la route pour le cimetière où était enterré son ami Lazare. Je continue. Puis il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. Maître, lui dirent-ils, il n'y a pas si longtemps, ceux de la Judée voulaient te tuer à coups de pierre et maintenant tu veux retourner là-bas. N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? Répondit Jésus. Si l'on marche pendant qu'il fait jour, on ne bute pas contre les obstacles parce qu'on voit clair. Mais si l'on marche de nuit, on trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière. » Versets 7 à 10. Les disciples ont froid dans le dos à l'idée de retourner dans les environs de Jérusalem. Jésus les rassure en leur rappelant que sa mission n'est pas terminée et qu'il doit donc la poursuivre tant qu'il fait jour, avant que pour lui ne sonne l'heure des ténèbres, son arrestation, son procès et sa mort. Tant qu'un croyant obéit à la volonté de Dieu, qu'il marche tel une brebis à la suite du bon berger, faisant ce qu'il lui demande, il profite de la lueur du jour et ne trébuchera pas, puisque Jésus est sa lumière. Je n'ai alors rien à craindre. Aucun événement, ni quiconque ne peut entraver le plan que Dieu a pour moi. Bien sûr, je ne le connais pas, et c'est pour cela que le Seigneur me demande avant tout de lui faire confiance, de lui être fidèle, sans m'inquiéter de ce qu'il pourrait m'arriver, car de toute façon, j'achèverai ce qu'il m'a confié. Par contre, si j'en fais à ma tête, alors je marche dans les ténèbres, et c'est dommage si je me retrouve dans de vilains draps. Et sur ces paroles, je termine pour aujourd'hui. Et sur ces paroles, je termine pour aujourd'hui.